Le clivage, c'est bon, tout le monde tweet, filme tout. En direct, les films, les courts-métrages, du spectacle. Ouais,
9h40, soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Parce que le lapin, c'est exactement Charlie Chaplin.
Pour une presse indépendante,
formation numérique,
mené sur l'écran internet.
Ce matin, nous passons au crible les 24 premières heures de télévision sur lesquelles vous avez eu les yeux rivés. Du sérieux, des témoins, des chaînes d'infos à visage humain. Bonjour Edouane Tella.
Bonjour Sonia.
Chroniqueur de l'Instant M qui a dormi la télécommande à la main. Bruno Donnet, salut Bruno.
Bonjour Sonia.
Face au petit écran, vous avez fermé les yeux et ouvert grand les oreilles, comme c'est étrange. Direction ensuite les réseaux sociaux, prendre à bras le corps l'intox viral, déjouer la rumeur, apprendre au grand public à recouper l'info et à se méfier des images. C'est l'excellent boulot qu'ont accompli entre autres les décodeurs sur le site du Monde. Samuel Laurent, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes le responsable de cette équipe spécialisée dans, je vais utiliser un jargon, le fact-checking.
L'Instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Alors, télévision d'abord, je vous l'ai dit, dès avant 22h, les trois chaînes d'infos basculent en breaking news.
Et pendant ce temps, le match s'achève sur TF1. France 3 transforme son soir 3 en édition spéciale. En revanche, surréaliste sur France 2, Frédéric Taddeï, toujours en direct habituellement, avait enregistré son Ce soir ou jamais sur le climat.
C'est ça, et donc Frédéric Taddeï, Redouane, il continuait de parler, alors que toutes les autres antennes se transformaient.
Parler de climat, de réchauffement climatique, émission interrompue seulement une heure après, lors du discours du président de la République.
Alors, côté toute info, les mises en demeure du CSA après le 7 janvier ont manifestement produit leur effet, Edouane.
Deux mots sont d'ordre. Sérieux et retenu, pas d'éditorialiste à l'emporte-pièce, des erreurs, par contre, sur le nombre de policiers tués au Bataclan.
Ouais, alors là, je vous arrête, Samuel Laurent, des erreurs que vous avez relevées immédiatement du côté des décodeurs
du Monde. Oui, puisque nous, on a vérifié avec nos propres sources qui nous disaient, ce qui a été confirmé après, qu'il y avait un policier tué, mais pas quatre, comme on a pu l'entendre, et surtout pas au Bataclan pendant l'assaut.
C'est ça. Et info reprise par les chaînes d'info, notamment Paris Télé. Voilà, donc ensuite vous avez retrouvé un policier en civil tué, mais qui n'était pas en service. Et un commissaire blessé.
Voilà, un commissaire blessé au bar Vernation, je ne sais plus le nom.
Vernation, ouais, d'accord. Merci. Alors en revanche, grande prudence sur le décompte des victimes, Redouane.
Oui, le BFM et iTélé attendent confirmation de l'AFP, alors que les chiffres circulent déjà sur les sites d'info et sur les réseaux sociaux.
Je voudrais juste donner une précision importante pour tous ceux qui nous regardent ce soir. Il est minuit 37 sur iTélé. Les images que vous voyez en ce moment ne sont pas en direct et c'est volontaire. Les autorités nous ont demandé, il y a quelques instants, de ne plus retransmettre en direct depuis les abords du Bataclan.
Voilà, là on est sur iTélé, c'est Bruce Toussaint que vous entendez. Normalement c'est l'homme de la matinale sur iTélé. Il est revenu à l'antenne un peu comme tous les poids lourds de l'info ce week-end. Patrick Cohen, Gilles Boulot en renfort des équipes du week-end, Redouane.
Le lendemain, samedi donc, le CSA rappellera à l'ordre toutes les chaînes demandant à ce que les images n'entravent pas le bon déroulé de l'enquête. iTélé prend cette décision en concertation avec les forces de police sur place.
C'est ça, donc de ne pas diffuser les images de l'assaut en direct.
Oui, mais par contre, BFM Télé, qui est, elle, restée en direct, filme l'assaut de côté. Donc on ne voit pas la façade, à la différence de l'hypercachère.
Voilà, et Hervé Béroux, le rédac-chef de BFM TV, s'exprimera plus tard pour dire qu'il n'y avait pas d'instruction du ministère de l'Intérieur sur cette séquence. Et puis, frappant, poignant, tellement humain, ce sont surtout des témoins qu'on a vus et entendus tout le week-end, sur toutes les chaînes, Redouane.
Tout le week-end, pas de séquence choc, très peu. On est passé d'une télé qui montre, comme on la connaissait en janvier, à une télé qui raconte. Pas de flics en action cette fois, peu de mise en perspective, beaucoup moins d'experts qui déblatèrent que d'habitude des témoins.
Voilà, et puis on peut le dire, des éditions spéciales d'excellente tenue aussi sur les chaînes généralistes. À noter que le CSA leur avait autant tapé, on l'a peut-être oublié, sur les doigts au mois de janvier, que leurs consoeurs du Breaking News et du Tout Info.
Et c'est flagrant, mais les journaux de TF1 étaient essentiellement nourris par la rédaction de LCI. C'est là qu'on se rend compte à quel point l'avenir de la chaîne d'info, menacée depuis quelques mois maintenant, s'avère déterminante pour le groupe TF1.
Pour le groupe TF1, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait retenir de ces 24 premières heures de télé. Alors Bruno Donnet, un traitement télévisuel sobre et digne. Vous avez une explication à ce qu'on a vu et surtout à ce qu'on a entendu.
Oui Sonia, si la télé a été bonne ce week-end, c'est avant tout parce qu'elle a été obligée de faire de la radio. Pourquoi ? Eh bien parce que contrairement à ce que nous avions vécu au mois de janvier dernier, la police a interdit aux journalistes de s'approcher du Bataclan. Elle les a contraints à respecter un large périmètre de sécurité et les a donc totalement privés de ces images, à la fois spectaculaires et angoissantes, qu'elles aiment tant. Du coup, écoutez par exemple. Comment TF1 nous a raconté samedi ce qui s'était passé sur la toute première terrasse qui a été attaquée.
Même de loin, filmé par une vidéo amateur, les bruits laissent deviner l'intensité des tirs.
Oh là là.
TF1 a utilisé un document dans lequel on ne voit strictement rien parce que les images sont floues, mais dont le son est tout à fait limpide. Pareil pour l'assaut du Bataclan, périmètre de sécurité oblige, les caméras de télé n'ont rien pu voir, mais leurs micros ont tout entendu.
Les tirs de précision des forces d'intervention résonnent dans la nuit. Tout de suite après, réponse des terroristes, alarme de guerre.
Voilà, pas de scène hollywoodienne comme devant l'hypercachère, pas de déluge de feu, pas d'image de terroriste en train de se faire dessouder par la BRI, et surtout, surtout, aucune possibilité pour la télé de patienter tranquillement installée devant un plan fixe qui ne donnait l'illusion de l'information. Car qu'est-ce qui s'est passé en janvier dernier? Eh bien, les télévisions se sont rendues prisonnières des images qu'elles avaient elles-mêmes fabriquées. En attendant le dénouement, l'œil de la caméra vissé sur l'entrée de l'hypercachère ou sur le toit de l'imprimerie, les télés étaient devenues paresseuse, croyant qu'elle pouvait se contenter d'attendre en meublant l'antenne et en racontant parfois absolument n'importe quoi. Cette fois-ci, parce que la télé a été privée d'images, eh bien, elle a été obligée de travailler, de se souvenir que quand les téléspectateurs que nous sommes allument leur télévision, c'est pas nécessairement pour voir, c'est avant tout pour savoir, pour comprendre ce qui se passe et pas pour en prendre plein les mirettes. Du reste, lorsqu'au bout de 24 heures, les télés ont commencé à diffuser des vidéos un peu plus explicites tournées par des amateurs qui ont filmé les victimes, eh bien écoutez bien le son qu'on a entendu, c'était hier midi sur France 2.
Arrêtez de filmer ! Arrêtez de filmer !
Voilà, on ne demande jamais à un journaliste de radio de couper son micro. En revanche, certaines images nous sont odieuses. Il y a, ceux qui nous écoutent là en ce moment le savent bien, une forme de dignité dans le son qui tient à son fameux pouvoir évocateur, là où on ne trouve dans les images, lorsqu'elles sont trop crues, que de l'impudeur. Pour terminer, je voulais vous faire entendre, Sonia, l'extrait d'un reportage que j'ai vu hier dans le 20h de TF1. Une journaliste est allée trouver le père d'une des victimes du Bataclan. Elle s'appelait Lola et écoutez bien ce que l'on a entendu.
Nous ne verrons pas le visage de Lola. Son père préfère les paroles à l'image pour la décrire.
Eh oui, les paroles sont souvent plus intéressantes que les images. Voilà pourquoi, ce week-end, on a assisté à un heureux paradoxe. En janvier, la police avait été gênée dans son travail par les journalistes. Eh bien, 10 mois après, en gênant les journalistes, la police leur a permis de mieux faire le leur.
Un heureux paradoxe, un peu comme si la télévision avait fait de la radio. Merci Bruno Denet.
L'Instant M avec Sonia De Villers.
Invité de l'Instant M ce matin, Samuel Laurent, vous êtes le responsable et non pas le rédac chef. J'ai noté la différence de cette équipe spécialisée dans le fact-checking, c'est-à-dire des faits et encore des faits. On vérifie les faits. Vous êtes mis immédiatement au travail pour débusquer la rumeur sur les réseaux sociaux, une rumeur écrite sur Twitter et aussi une rumeur en images. Alors je signale que vous n'êtes pas les seuls à avoir pris à bras-le-corps l'intox viral qu'on a repéré ici à l'Instant M, l'excellent boulot de l'Obs.fr aussi, et de BuzzFeed, ce site qui a l'habitude de publier des listes assez rigolotes, qui s'est aussi spécialisé là-dedans, et ça a manifestement payé. On a parlé des 4 policiers tués, donc entendus sur iTélé et relayés partout sur les réseaux sociaux, information que vous avez immédiatement démentie. Autre information qui a beaucoup circulé, même si alors là les chaînes ont été très prudentes, fusillade aux Halles, à Belleville ou à République, Samuel Laurent.
Ouais, tout à fait. Toute la nuit, on a eu ces messages-là. Nous, dans ces cas-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est aussi on a ouvert un live et on travaille beaucoup dans ce genre de cas à partir des questions que nous posent les gens sur notre live où ils peuvent nous interpeller.
Ce qui est extrêmement intéressant parce que vous instaurez un rapport complètement horizontal avec les lecteurs du Monde. C'est-à-dire, ils vous interrogent, vous leur répondez, vous êtes à leur service.
Ce qui nous permet et aussi de repérer du coup des rumeurs qui émergent, des choses comme ça, et du coup de les démentir. Donc c'est vrai qu'à partir de l'audience et à partir des questions de l'audience, on peut voir des choses que les journalistes auxquels les gens ne pensent pas forcément ou n'ont pas le réflexe forcément de dire qu'il faut qu'on apporte une réponse à ça. Donc c'est vrai qu'on se met dans une position un peu plus servicielle. C'est une des choses que permet Internet sans doute par rapport à d'autres médias.
C'est ça, c'est une autre logique. Hein, on est dans l'interactivité, on est d'égal à égal. Et par ailleurs, moi, dans vos préambules, dans les papiers que vous avez publiés, il y a des mots qui m'ont frappé. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on est assez fataliste face aux réseaux sociaux, on a l'impression que c'est un effet de masse, c'est un effet d'instantanéité. Non. il y a de la malveillance et il y a de la manipulation, et vous l'écrivez noir sur blanc, quitte à pointer d'ailleurs des comptes Twitter qui en profitent pour faire parler d'eux ou pour faire circuler des infos nauséabondes.
L'idée, c'est pas de jouer la police des réseaux, mais c'est effectivement, je pense, important de faire comprendre peut-être à des gens qui se rendent pas compte. On a eu un cas ce week-end d'un adolescent qui est un peu connu sur Twitter, qui a plusieurs comptes, qui s'appelle notamment Le Masculiste, qui s'amusait à prendre une info d'il y a 10 jours non sourcée d'un truc à Strasbourg, à envoyer ça comme si ça s'était passé samedi, évidemment dans un climat d'angoisse.
Alors, c'est pas un truc à Strasbourg, c'est une intervention du RAID
voilà,
à Strasbourg.
Qui était fausse en plus, qui n'a jamais eu lieu. Et il balance ça sur les réseaux sans faire attention et il a 3, 4, 5 000 retweets, c'est-à-dire que les gens retransmettent l'information plus de 3 000 fois. Donc il fait circuler cette information qui est fausse et il le fait pour faire du buzz, pour faire parler de lui, clairement.
Alors 4 000 reprises sur Twitter, retweets comme on dit, c'est beaucoup.
Oui, c'est relativement beaucoup. Twitter n'est pas un réseau où quand vous commencez à avoir plus de 5 000 retweets, c'est que ça commence à être important. Il faut voir que c'est une viralité, c'est-à-dire que ça se répand aussi de personne en personne au-delà des retweets.
Alors, j'aimerais qu'on en vienne à ce travail que vous avez fait sur les photos. C'est extrêmement important parce que vous en profitez pour expliquer aux lecteurs du Monde et aux internautes qu'il faut se méfier de l'image. D'abord, avec les décodeurs, vous parlez à un public plus large, jeune que le lecteur habitué du Monde et surtout l'abonné depuis 1974. Donc vous faites aussi œuvre de pédagogie, Samuel Laurent.
On essaye. Je pense qu'il y a un vrai phénomène avec l'image sur Internet qui est que c'est le punctum de Barthes. C'est-à-dire qu'on estime que l'image exprime ce qui est. Or, il n'y a rien de plus dangereux et de plus manipulateur qu'une image. La classique sur les réseaux sociaux, c'est, bon, typiquement, pour vous donner quelques exemples, ce week-end, on a eu des gens qui balançaient scène de liesse à Gaza, regardez avec une photo qui est vraie, qui s'est passée à Gaza en 2012.
En 2012.
Voilà, donc ces gens-là.
Comment est-ce que vous avez retrouvé la photo?
Alors, il y a un système très simple que je peux faire à tous vos auditeurs. Vous faites un clic droit sur la photo, vous faites rechercher sur Google, ça vous fait une recherche d'image. Et si vous voyez que la même photo a été postée il y a 3 ans.
On peut placer une photo dans la barre d'image de Google.
On peut chercher une photo sur Google, oui.
Exactement comme on cherche un mot.
Il va chercher les images similaires. C'est très facile à faire, ça prend vraiment 15 secondes.
Donc, on devrait tous avoir le réflexe.
On devrait vraiment tous avoir le réflexe de ne jamais prendre une photo pour quelque chose de vrai.
C'est
si elle n'est pas en contexte, si on n'a pas la certitude que la personne qui a pris cette photo était bien à un endroit donné, on peut pas balancer ces infos-là en pensant qu'elles sont vraies. Enfin, je pense que plein de gens le font de manière sincère.
Justement, vous l'avez retrouvée, c'est une photo Reuters, donc c'est une photo de photojournaliste. Et c'était en effet des scènes de liesse à Gaza, c'était un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, ça n'avait rien à voir. Et Patrick Cohen nous disait ce matin, au moment du passage d'antenne, que France Inter a reçu de nombreux appels tout à l'heure au standard. Il y a des photos qui circulent et qui prétendent qu'il y a une scène de liesse également à Marseille, photo à la pluie, c'est également complètement faux. Scène de liesse également en Allemagne. Alors, manifestation de soutien.
Oui, manifestation de soutien en Allemagne qui en fait était une photo de Pegida. Là, je pense que par contre, on est dans quelque chose de plus sincère. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens, c'est comme un peu toutes les photos de monuments illuminés qui pour une partie étaient en fait faux. Qui étaient en fait des photos retouchées dans un premier temps.
Donc
en tout
c'est
cas.
Du photomontage ?
C'est du photomontage, mais je pense que ça, pour le coup, ça participe d'une émotion. C'est-à-dire que les gens ont envie de commémorer, de partager leur émotion. Donc l'image n'est pas extrêmement comment dire, importante dans sa réalité. Ce qu'ils veulent, c'est partager quelque chose de symbolique.
Alors, on a vu les pyramides de Gizeh en bleu, blanc, rouge.
Voilà, par exemple, évidemment, les pyramides ne peuvent pas être éclairées bleu, blanc, rouge comme ça. Donc ça par exemple, c'était une photo retouchée
faux,
et recolorée.
C'est faux, mais l'Empire State Building à New York.
Eh bien, c'était pas l'Empire State Building, en tout cas pas vendredi soir. C'était la Freedom Tower, donc qui est la tour qui a remplacé les deux tours du World Trade Center.
Mais cette photo de l'Empire State, elle a circulé
voilà.
partout.
Voilà, celle-là était une photo ancienne qui a circulé partout. L'autre exemple qu'on peut donner, c'est ce texte attribué au New York Times, donc c'est un texte assez émouvant sur la France, pays dur.
Je peux vous en lire quelques lignes. Oui, c'est vrai que c'est assez émouvant, il a circulé partout. Alors on raconte ce que c'est que de vivre à Paris, le droit de ne pas croire en Dieu, de ne pas s'inquiéter des calories, de flirter, de fumer, de profiter du sexe hors mariage, de prendre des vacances, de lire n'importe quel livre, d'aller à l'école gratuitement, de jouer, de rire, de se disputer, de se moquer des religieux comme des hommes politiques, de laisser l'inquiétude sur ce qu'il y a après la vie, aux morts, etc. etc. Donc une espèce de cri d'amour pour ce que c'est que la culture et l'art de vivre à la française,
voilà,
Samuel Laurent.
Tout à fait, donc c'est un texte très beau qui a été très partagé, c'est normal. Le problème, entre guillemets, c'est qu'il a été partagé comme étant un éditorial du New York Times. En fait, il s'agit d'un commentaire d'un lecteur sur le site du New York Times. Ce qui, vous allez me dire, n'est pas bien grave, mais enfin tout de même, ça a été beaucoup partagé, notamment par des journalistes, sans que personne prenne la peine de vérifier finalement si ce texte était d'où il venait, qu'est-ce que c'était.
C'est pas bien grave si, c'est extrêmement important de savoir qui parle justement, qui parle, et c'est d'autant plus important que vous publiez sur le site du monde.fr Samuel Laurent, quelques conseils pour ne pas se faire avoir par des rumeurs. Partez du principe qu'une information donnée sur le web par un inconnu est par défaut plus fausse que vraie. Fiez-vous plutôt aux médias reconnus, aux journalistes identifiés et connus. Ça signifie que oui, il vaut mieux se fier à un article du New York Times qu'un commentaire sur le site du New York Times.
Évidemment.
Donc la nature de l'information, de qui la produit et de qui la diffuse, et ça, votre public est sensible à ce genre d'alerte de...
En tout cas, on a été beaucoup rediffusé sur ces conseils-là, à un degré que je pensais pas, parce que pour moi, ils sont quand même très très basiques, mais visiblement, c'est des choses à rappeler. Ce qu'on disait là, ça vaut, évidemment, je suis pas du tout contre le journalisme citoyen ou contre les blogs ou ce type de réflexe-là. Je pense que dans des cas de crise comme ça grave, l'information circule très vite, elle est pas toujours fiable, et vraiment, il vaut beaucoup mieux se tourner vers un média reconnu, qui a des journalistes qui ont des sources fiables, qui va pas publier n'importe quoi, n'importe comment, plutôt que sur un tweet d'internaute qui dit qu'il a vu ci ou ça. Il y a un peu un phénomène aussi de ce qu'on appelle le citizen journalism, donc le fait qu'aujourd'hui, tout le monde finalement est un média avec les réseaux sociaux, tout le monde peut diffuser. On a eu une période un peu peut-être angélique en disant c'est formidable, et c'est vrai que c'est formidable dans plein de cas. Dans d'autres cas, et on s'en aperçoit dans des crises comme ça, ça peut être dangereux comme instrument. Donc c'est chose à manier avec précaution.
D'autant qu'on a vu des images de terroristes tués soi-disant ce week-end à Bagnolet. Ça, c'est vos confrères de l'Obs qui ont déjoué cette rumeur-là. C'était 4 criminels tués début novembre par les forces de l'ordre au Brésil. Donc ça n'a rien à voir. Autre info extrêmement grave qui aurait pu avoir des répercussions terribles. On a entendu parler d'un incendie criminel à Calais en représailles à ce qui s'était passé à Paris, Samuel Laurent.
Et donc il y a eu un incendie effectivement à Calais, comme il y en a souvent dans la jungle de Calais où forcément les conditions sanitaires font qu'il y a des départs de feu, et cet incendie était accidentel et n'avait rien à voir avec, ça a été raconté, avec des mesures de représailles de l'extrême droite qui serait venue incendier des camps de migrants. C'était pas vrai.
C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est tout ce qui est publié en quelques mots, et chaque mot a son poids autour de la photo qui circule. C'est ça qui fait basculer une image d'un côté comme de l'autre. Comme ces images, alors là vous avez fait un très chouette travail, c'est bien moins grave, mais ces fameuses 4 photos de Paris totalement anesthésiées par la peur, avec des rues désertes.
Voilà, qui étaient en fait 4 photos anciennes et qui n'avaient rien à voir, là encore une fois. Et là, on est sur encore un autre phénomène. Il y a aussi des comptes sur Twitter notamment, qui font soit du breaking news, vous en avez plusieurs, qui sont en fait des trucs tenus en général par une personne qui n'est pas toujours journaliste, qui en fait regarde la télé, s'est créé un compte qui veut faire comme l'AFP, mais en fait il fait comme l'AFP devant sa télé tout seul. Ce qui là encore peut fonctionner dans des circonstances normales, mais en cas de crise, ces comptes-là deviennent extrêmement peu fiables, parce qu'en fait ils ne font que écouter BFM et rebalancer ce que dit BFM.
Est-ce que ça produit surtout de vertueux, c'est que ça rappelle quand même que le journalisme, c'est un métier, que la base, c'est de vérifier, et que parfois, en tout cas, sur ce que vous décrivez là, c'est le café du commerce, quoi. C'est ça que ça dit.
J'ai vu ça sur BFM, donc je le rebalance sur Twitter, donc quelqu'un d'autre, voyant mon tweet et me faisant confiance, va le retweeter, en me donnant ce crédit-là à moi. Alors qu'en fait, cette info n'est pas à moi, elle est à BFM et on ne sait pas comment BFM l'a eu. Nous, au Monde, on avait fait pareil pour Charlie, on s'est appuyé sur la même méthode, on s'est dit, dans ce genre de cas de crise grave, on ne s'appuie que sur nos propres infos. C'est-à-dire, y compris les infos d'agence, etc., on attend de les avoir confirmées, nous, pour les publier.
Y compris les infos AFP, Reuters
et compagnie. On attend toujours d'avoir fait vérifier par, on a des investigateurs que je peux citer, ceux qui ont travaillé tout le week-end, Élise Vincent, Laurent Borédon, Soren Silo, qui travaillent avec la police, qui nous font des points régulièrement. On leur dit, il y a ça comme question, et on attend d'avoir une vérification pour publier au président de l'indicatif en disant, selon nos sources, il s'est passé ça. Je pense que c'est un réflexe qui ralentit l'information. On n'est pas dans la recherche du breaking news. De toute façon, dans des crises comme ça, le breaking news, on est sur des histoires de 3 minutes. Et je pense que ce qui est vraiment plus important, c'est de donner une information fiable.
Merci beaucoup, Samuel Laurent. Et donc, ces photos de Paris déserte, elles dataient du mois d'août et elles avaient même été postées par un touriste sur le forum du Routard. Merci beaucoup à tous les trois. Et voici Bruno Duvic, un jour en France. Où partez-vous ce matin,
Bonjour,
Bruno ?
Bonjour, Sonia de Villers. Écoutez, Paris est au centre de l'actualité et de tout depuis ce vendredi d'horreur. Nous nous ferons un tour de France des régions. Quelle réaction, quel sentiment, quel rassemblement en région. Et puis, parole aux auditeurs de France Inter, notamment si vous habitez en région. Comment avez-vous traversé le week-end ? 01 45 24 7000. Et en studio, il y aura la docteure en psychopathologie Hélène Romero pour répondre à toutes les questions que vous vous posez encore ce lundi matin, à quelques heures de la minute de silence, notamment.
Voilà, merci beaucoup Bruno. Ce sera juste après les infos. Un jour en France, partout en France, vous l'avez bien entendu.